Bienvenue, j'avais été invitée aussi déjà par Marie, alors merci beaucoup pour votre invitation. Cette fois j'ai amené ma famille avec mon mari, on est des parents adoptifs de deux enfants qu'on a été chercher en Haïti. Stanley, il a 11 ans, et puis Stacy, elle a 6 ans, voilà. Ce matin j'avais vraiment à cœur de vous parler du Saint-Esprit, comment il souffle en nous. Et j'ai eu un petit problème technique avec mon imprimante ce matin, parce que j'ai imprimé toutes mes feuilles sauf la première. Alors cette fois-ci, j'ai dû prendre juste mon ordi pour la première page, après je continuerai sur les feuilles. Il y a 15 jours, j'imagine, comme nous à l'église à la Fraternelle à Nyon, vous avez fêté la Pentecôte. On s'est rappelé que voilà, le Saint-Esprit il est venu à Jérusalem au milieu des disciples, et puis ils ont vécu ce moment tellement fort ensemble, d'être visités tous ensemble par le Saint-Esprit pour la première fois. Si on avait pu, je pense qu'on aurait tous voulu être une petite, dans un petit coin de la salle pour voir ce qui se passait, pour voir comment ça s'est organisé. Il faut que je le mette un peu plus loin, comme ça c'est mieux. Pardon. Si je l'enlève, comme ça, ça va mieux. Alors voilà, je disais, si on avait pu, ça aurait été génial de voir comment ça s'est passé, mais nous on a tous le texte dans Actes 1 et 2, puis on peut lire. On le lit, on le relit chaque année. Et puis c'est vrai que c'est extraordinaire, puisque c'est marqué dans Actes 2, nous lisons. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler dans d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils ont commencé à parler de quoi ? Des merveilles de Dieu. Imaginez si votre bouche, elle se met à parler en grec, en arabe, en turc, en chinois. Vous ne comprenez rien ce que vous dites, mais les gens qui sont là autour de vous, puisqu'il y avait toutes ces langues, elles commencent à parler, à comprendre, puis ils disent « Mais comment c'est possible ? Comment c'est possible ?» Ils parlent des merveilles de Dieu dans une autre langue. Des fois, on aimerait bien aussi vivre des choses comme ça. Alors, le Saint-Esprit, il a été envoyé par Dieu, c'est Jésus qui l'avait promis, et en même temps, c'était la naissance de l'Église. Au moment où le Saint-Esprit était là, ça a créé cette communauté, et assez rapidement, les jours suivants, il y a eu des milliers de personnes qui les ont rejoints. Finalement, c'est l'Esprit de Dieu qui a mis en mouvement les disciples qui sont devenus le corps de Christ, une communauté de croyants, et plus tard on appellera les chrétiens. Alors l'Église, notre Église, l'Église, c'est l'Église de Christ, elle est fondée justement sur le fondement du Christ, et en même temps, c'est le Saint-Esprit qui lui donne vie. Et heureusement qu'il est là, le Saint-Esprit, parce que je crois qu'on a tous besoin de lui. C'est lui qui nous inspire, c'est lui qui nous pousse en avant, c'est lui qui nous parle. Puis quelque part, je me suis dit, on ne devrait jamais avoir peur du Saint-Esprit. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de penser ça, parce que des fois, on entend, il y a eu des périodes dans l'histoire de l'Église, il y a eu des choses bizarres qui se sont produites. Puis des fois, il y a des gens qui sont un peu, c'est quoi le Saint-Esprit ? Finalement, quand même, dans la Bible, c'est très clair. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit, ça fait partie de la Trinité. Le Saint-Esprit, il est saint. Il est pur, il est juste et il enseigne la vérité. En fait, il est joie, il est paix, il est amour, il est tendresse et il est là à nos côtés, chaque jour. C'est aussi écrit que là où est l'esprit, là est la liberté. Donc on devrait plutôt se réjouir et inviter l'Esprit Saint à nous guider. Pour ma part, c'est vrai, en préparant ces prédications, j'ai fait aussi le culte de Pentecôte dans mon église. Je me suis dit, mais c'est tellement vaste tout ce que le Saint-Esprit fait dans nos vies. Et il y a tellement de textes dans le Nouveau Testament sur le Saint-Esprit. Alors bien sûr, il était déjà là, pas seulement dans le Nouveau Testament, puisqu'avant la fondation du monde, il était déjà présent. Il a toujours existé, l'Éternel, il est Dieu. Mais quelque part, il y a tellement de textes qui nous montrent qui il est, qui parle et qui décrit le Saint-Esprit. Pour moi, j'avoue, j'aimerais tellement plus apprendre à l'écouter, à me laisser enseigner, à me laisser guider. Maintenant, j'aimerais revenir avec vous 3 ans avant la Pentecôte. 3 ans avant la Pentecôte, ce qui s'est passé, c'était Jésus. Je me suis dit, tiens, quel est le rapport de Jésus et l'Esprit ? Jésus, on le voit se faire baptiser. Et le jour où il se fait baptiser, au Jourdain, il y a justement le Saint-Esprit qui est aussi là. Dans Luc 3, 21 à 22, on peut lire, « Quand tout le peuple reçut le baptême, Jésus aussi reçut le baptême. » Il n'avait pas besoin d'être baptisé, Jésus. Il n'avait pas commis de péché, il n'avait pas besoin de se repentir. Mais quelque part, il a fait pour montrer l'exemple, pour nous montrer ce que lui nous appelait. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et l'Esprit Saint descendit sur Jésus sous une forme corporelle, comme une sorte de colombe. Il survint alors une voix du ciel. « Tu es mon fils bien-aimé, c'est toi que j'ai pris plaisir, c'est en toi que j'ai pris plaisir ou en toi que j'ai mis toute mon affection, selon les traductions. » Et on voit là la présence justement de la Trinité. Il y a le Fils qui est là corporellement présent dans l'eau, il y a le Saint-Esprit qui descend comme une colombe et il y a Dieu qui parle. C'est quand même extraordinaire, quoi. Ce moment tellement fort. Et là aussi on pourrait se dire, il n'avait pas besoin d'être baptisé, mais est-ce que Jésus il avait besoin de recevoir l'Esprit? Il était déjà rempli. Lui aussi, il est tellement en communion proche. En même temps, c'est deux personnes, le Saint-Esprit. Ce n'est pas la même sorte que Jésus, puis en même temps, ils sont les deux dieux. Et pourtant, il a reçu l'Esprit. Et un peu plus loin, c'est marqué, « Jésus rempli d'Esprit Saint revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit au désert. » On voit que l'Esprit même, il conduit Jésus. Jésus, il ne fait pas les choses de sa propre autorité, mais c'est l'Esprit Saint qui le conduit. Et l'envoie là au désert où il fut mis à l'épreuve par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand ils furent achevés, quand ces 40 jours furent à leur fin, il eut faim. C'est intéressant parce qu'il y a tout ce temps de la tentation où l'ennemi, le diable, lui dit « si tu es le Fils de Dieu ». Déjà, il remet en question. Je ne sais pas, c'est comme moi, on me disait « si tu es une femme ». Ben non, ça se... Bon, c'est vrai qu'actuellement, dans la société, ça devient compliqué, mais Jésus, lui, il a toujours été le Fils de Dieu, puis ce n'est pas une question à se poser. Et après ce temps de tentation, où Jésus, à chaque fois, il utilise la parole de Dieu et il proclame, et il tient tête, quelque part, à l'ennemi, eh bien, c'est marqué « Jésus retourna », en Luc 4, 14, « retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit ». C'est comme si, quelque part, quelque chose s'est passé de différent. Il a été revêtu d'une puissance de l'Esprit. Et le bruit s'en répandit dans toute la région. Alors on se dit, certainement, c'était le début du ministère de Jésus, quand il s'est fait baptiser, il y a eu ce temps à part, 40 jours à part. Même sans le fait de jeûner, je ne sais pas si ça vous est arrivé, d'être 40 jours sans voir personne. Ça c'est quand même compliqué, 40 jours sans voir personne. Donc dans un petit chalet perdu à la montagne, ou je ne sais pas, quelque part. C'est quand même très rare dans nos vies, où on a 40 jours sans téléphone, sans rien à faire, entre guillemets, que de parler à Dieu et d'être à son écoute. Et lui, Jésus, il a vécu ce moment-là. Il était rempli de l'Esprit. Et c'est vrai que ce mot de puissance, revêtu de puissance, c'est un peu spécial, c'est un peu mystérieux, parce que Luc, il n'en dit pas plus, il dit juste cela. Et si on regarde en grec, dynamis, ça veut dire puissance, autorité, énergie, capacité, et des fois, c'est aussi traduit par miracle. Et Jésus, il nous montre avec cet exemple qu'il est rempli de l'Esprit, que c'était finalement quelque chose d'important pour lui. Que s'il voulait continuer son ministère, il avait aussi besoin de cela. Puis c'est vrai, je me suis dit, mais alors les disciples après, est-ce qu'ils ont eu aussi besoin? Justement, Jésus l'a dit, mais moi si je pars, il faut aussi que je vous envoie le Consolateur. Comme ça, il sera tous les jours et tout le temps avec vous. Jésus ne voulait pas nous laisser seuls, il a dit, si moi je monte au ciel... Je vous enverrai l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, c'est vrai qu'il est là pour nous encourager, pour nous enseigner, pour nous parler des merveilles de Dieu. Alors maintenant, je vous propose de revenir 3 ans plus tard, quand il y a eu la suite de la Pentecôte. Quelques jours plus tard, Pierre, il monte avec Jean au temple. Ils sont sur le chemin, ils sont en train de monter au temple. Et qu'est-ce qui se passe? Devant une des portes, la belle porte, ils voient un homme qui est là et qui est infirme. C'est pas la première fois qu'ils le voyaient. Hein. C'est peut-être là, je sais pas moi, une centaine de fois, puisqu'ils allaient très souvent, voire tous les jours, quand ils étaient à Jérusalem au temple. Mais ce jour-là, ils s'arrêtent. Et là, il dit « Regarde-nous » à cet homme. Cet homme, il attendait, il espérait recevoir, je sais pas, quelques pièces. Et qu'est-ce que Pierre lui dit? Il dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. » « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et tout d'un coup, il le prend par la main, il y a ses pieds, ses chevilles qui s'affermissent, et d'un bond, il est debout, et commence à marcher. Et pour la première fois de sa vie, cet homme, il a le droit de rentrer dans le temple. Parce que c'est interdit, dans les lois de l'Ancien Testament, pour une personne handicapée, de rentrer dans le temple. Et il saute de joie, il est tellement content. Il loue Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et tout le monde le connaît, cet homme, puisque tout le monde le voyait. Et Pierre, là, à ce moment-là, il appelle le peuple. Il dit, mais non, arrêtez de regarder à nous, à Pierre et à moi, Jean. Ne regardez pas à nous, c'est pas nous avec notre propre pouvoir qui avons pu faire cela. Nous, on n'a rien de spécial. Et là, il prend le temps de leur annoncer. Ils ont dit, celui que vous avez fait mourir, le prince de la vie, c'est lui, celui que Dieu a ressuscité. C'est au nom de Jésus que cet homme a été affermi, qu'il a été guéri. C'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. Pierre et Jean, ensuite, ils se trouvent devant le Sanhédrin, devant les autorités. Et puis là, justement, dans Actes 4, 1 à 14, on peut lire « Tandis qu'ils parlaient au peuple, les prêtres, le commandant du temple, les Sadducéens, ils survinrent. » Puis eux, ils étaient tellement excédés de les voir comme ça instruire le peuple et annoncer en la personne de Jésus la résurrection d'entre les morts. Et ils sont tellement énervés, parce que déjà, ils avaient fait arrêter Jésus, alors ils se disent « Mais maintenant, pourquoi ils continuent à parler de Jésus ?» Alors ils mirent la main sur Pierre et Jean. Ils les placent en bonne garde jusqu'au lendemain, parce que c'était déjà le soir. Mais le problème, quelque part pour eux, c'est que, la bonne nouvelle pour nous, c'est que tous ceux qui ont entendu la parole, ben, ils devinrent croyants. Ils ont cru en la parole de Pierre. Et le nombre d'hommes, à ce moment-là, il s'élève à 5000. Mais c'est toujours impressionnant quand on lit ça. Enfin, je sais pas, nous, quand on parle, on n'a jamais autant. Et puis même, moi, il y a 2 semaines, je disais dans mon église, si tout d'un coup, 5000 personnes arrivaient dans votre église ou dans la nôtre, je sais pas, on les met où? Ce serait une super bonne nouvelle, mais c'est vrai. Dieu, il savait. Puis ces gens-là, bien sûr, ben, ils allaient au temple ou alors ils allaient dans les maisons ensuite. Le lendemain, leur chef ainsi que les anciens et les scribes se rassemblèrent à Jérusalem avec le grand prêtre Anne, avec Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la lignée des grands prêtres. Et ils les firent comparaître au milieu d'eux et leur demandèrent. Et ça, c'est tellement intéressant cette question qu'ils posent. Par quelle puissance ou par quel nom avez-vous fait cela? C'est intéressant, ils utilisent le même mot, ce mot puissance dynamis. Ou par quel nom? Ils sentent bien qu'il y a quelque chose qui se passe, puis qu'ils se disent, c'est pas eux-mêmes. Alors Pierre, et là à nouveau, c'est intéressant, c'est rempli de l'Esprit. On voit que le Saint-Esprit, quand il nous remplit, il nous donne aussi le courage de parler, et il nous inspire. Et Pierre, il dit, chef du peuple et ancien, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme infirme et sur la manière dont il a été sauvé, sachez le bien. Vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, que vous avez crucifié et que Dieu a réveillé ou ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se présente en bonne santé devant vous. Et il rajoute, c'est lui la pierre que vous, les constructeurs, vous avez méprisée et qui est devenue la principale, celle de l'angle. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les humains parmi les humains par lequel nous devions être sauvés. Et là, il annonce clairement l'évangile. Il dit, si on peut être sauvé, c'est seulement par le nom de Jésus. Et c'est Jésus qui a guéri et sauvé cet homme. Et là, on voit qu'il annonce l'évangile, mais en plus, il guérit cet homme par le nom de Jésus. Alors, c'est vrai que le Saint-Esprit, il nous remplit, mais il nous permet aussi de faire des pas, de marcher à sa suite. Il nous permet aussi d'être inspirés. Mais bien sûr, les chefs, les anciens, n'étaient pas du tout contents, hein, parce que quelque part, ils ont eu une réponse. Ils ont dit, par quelle puissance, par quel nom? Il dit, c'est par la puissance du nom de Jésus que cet homme, il a été guéri. Mais ce n'était pas, j'imagine, tout à fait la réponse qu'eux, ils espéraient. Et puis, c'est vrai, par la suite, les disciples, après la Pentecôte, ils ont fait plein d'autres choses. Inspirés par l'Esprit, ils ont continué d'enseigner le peuple, ils ont continué aussi de prier pour les malades. Et puis, au fur et à mesure que l'Église elle grandissait, les gens y partageaient aussi leurs biens. Plus tard, en Actes 13, c'est intéressant de voir, là, c'est le ministère de l'apôtre Paul, et lui, il est présenté aussi comme rempli de l'Esprit. Lors de son premier voyage missionnaire, à un moment donné, il est sur l'île de Chypre, très belle île, et il confronte un homme qui s'oppose à lui par la ruse. Il y avait Barnabé, Barnabas, selon la version, et Saul, envoyés justement par l'Esprit Saint, c'est écrit, descendirent à Séleucie. De là, ils embarquèrent pour Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans des synagogues des Juifs. Ils avaient Jean comme auxiliaire. D'abord, à ce moment-là, ils allaient voir les Juifs. Plus tard, il a été aussi principalement vers les non-Juifs. Ensuite, après avoir traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain mage, un prophète de mensonge, un juif du nom de Bar-Jésus, qui était auprès du proconsul Sergius Paulus, qui était un homme, celui-là, intelligent. Celui-ci, donc le proconsul, il fut appelé Barnabas et Saul, cherchant à entendre la parole de Dieu. Il avait envie de les entendre, il avait entendu parler d'eux, il dit « mais moi j'ai envie d'entendre ce que vous avez à apporter ». Mais le problème, c'est que ce mage, Elimas, qui se traduit ainsi son nom, il s'opposait à eux et cherchait à détourner le proconsul de la foi. Alors là, justement, c'est intéressant de voir comment réagit Saul, Paul. Paul, rempli de l'Esprit Saint, c'est écrit, le fixa et lui dit « toi qui es plein de toutes sortes de ruses et de perfidies, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de détourner les voies du Seigneur qui sont droites ? Maintenant, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras plus le soleil. » Qui c'est qui oserait affirmer des choses si directes comme ça ? À l'instant même, obscurité et ténèbres tombèrent sur lui. Il errait en cherchant une main pour le guider. Quand le proconsul vit ce qui était arrivé, il devint croyant. Il était ébahi de l'enseignement du Seigneur. Dans ces deux exemples, on voit d'un côté Pierre qui est au temple, et puis après Paul, beaucoup, des années plus tard, qui est aussi à Chypre et qui parle. Et inspiré, rempli de l'esprit, on voit que la parole, la bonne nouvelle est annoncée, mais qu'il y a aussi des gens qui sont touchés et qui viennent à l'Évangile. Et c'est vrai que je trouvais aussi tellement intéressant parce que Paul, dans ses lettres et ses épîtres qu'il écrit ensuite plus tard aux différentes églises qu'il a visitées, eh ben, ce thème d'être à l'écoute du Saint-Esprit, d'être rempli de l'Esprit, c'est comme un fil rouge, on le retrouve dans plusieurs épîtres. On le retrouve dans Romains 3, dans Romains 5, 8, qui parle de justement vivre par l'Esprit et non selon la chair pour faire mourir justement les désirs de la chair, nos désirs charnels. Dans 1 Corinthiens 3 et 6, il parle de notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Et ça, c'est extraordinaire de se dire, c'est vrai, on a un beau bâtiment ici. Et en même temps, il dit, l'Église, c'est chacun d'entre nous, parce que l'Esprit-Saint, il vit en nous. En 1 Corinthiens 12, c'est aussi parler des dons spirituels. Tous les dons que Dieu donne, que ce soit une parole de prophétie, que ce soit une parole de sagesse, une parole, une capacité de discernement, de service, c'est les dons que le Saint-Esprit nous donne, qui sont au service de son Église. En Galates 5 aussi, la vie par la puissance de l'Esprit, puis il parle aussi des fruits de l'Esprit, et aussi en Éphésiens 5. Donc comme ça, il y a plusieurs textes qui parlent du Saint-Esprit, et puis je trouve que c'est tellement intéressant de, quelque part, de les relire, puis de se dire, c'est vrai, il y a eu la Pentecôte, mais après, il y a tellement d'autres enseignements. Même des fois, Paul, il dit, mais vous n'êtes pas encore prêts à ce que je vous donne vraiment les choses que Dieu a mis sur mon cœur, parce que quelque part vous êtes encore à manger quelque part du pain, moi j'aimerais vous donner de la viande, j'aimerais que vous ayez plus loin, mais vous êtes encore à vous disputer, moi je suis de Paul, moi je suis d'un tel. Et des fois c'est vrai qu'on doit aussi chacun cheminer et apprendre à dépendre de Dieu, et ben, Dieu il prend son temps avec chacun d'entre nous. Puis j'imagine que vous êtes déjà tous remplis du Saint-Esprit, mais Dieu, quand il nous emmène déjà à le connaître, ben c'est déjà le Saint-Esprit qui parle en nous. Parce que le Saint-Esprit, une de ses missions, c'est aussi nous convaincre de péché. Et rien que le fait de croire en Dieu, ça veut dire que le Saint-Esprit nous a déjà parlé. Après, ça n'empêche pas de demander, Seigneur, remplis-moi tout à nouveau, montre-moi qui tu es, apprends-moi à marcher à ta suite. Parce que Jésus, il en parlait déjà dans Jean 16, il disait, mais l'Esprit Saint est décrit comme l'Esprit de la vérité qui nous conduit dans toute la vérité. Je me dis, mais ça c'est extraordinaire, toute la vérité sur Dieu, sur le Fils, sur nous-mêmes, sur son Église. Et je crois que même toute l'éternité, on dit, ben, ce serait peut-être pas assez pour découvrir vraiment encore qui est Dieu. Des fois j'ai demandé à ma fille, tu sais qui est Jésus ? Oui, oui, je sais. Je sais pas, tu sais, je sais pas comment tu fais, parce que même moi je connais pas tout Jésus. Mes enfants, ils sont très affirmatifs. Et c'est marqué aussi dans Jean 14, ben, le Saint-Esprit il est là pour nous enseigner qui est Dieu. Il nous enseigne la parole de Dieu. D'ailleurs, certainement, quand on lit la Bible, des fois, les jours suivants, il y a un chant qui nous revient, une parole de la Bible. Mais ça, c'est aussi le Saint-Esprit. Quand tout d'un coup, on stresse, ce matin, avant de partir chercher mes clips, j'étais là, oh, il faut vraiment que je parte, je dois prendre mon train. Et puis, je sentais vraiment, calme-toi, ça va aller, on va les retrouver. Puis après, ça a été. Et c'est vraiment cet esprit qui nous encourage. Peut-être qu'il y en a qui ont, je ne sais pas, des examens, des tests, des choses. Ben, je crois que Dieu, dans notre vie du quotidien, et puis peut-être Vincenzo avec son bébé, des fois c'est pas toujours évident, même s'il paraît qu'il dort super bien, c'est une grâce de Dieu. Ben voilà, dans les défis d'être parent, on a aussi besoin d'être inspiré de l'Esprit. Dans Romains 5, c'est marqué aussi qu'il répand dans nos cœurs l'amour de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous redonne cet amour, qui nous encourage aussi à nous repentir, à nous pardonner et à obéir à Dieu. Alors comment l'Esprit Saint vous parle? Est-ce qu'il y a une ou deux personnes qui voudraient partager? Comment l'Esprit Saint vous parle? Vous pouvez vous lever à votre place.
Alors, il y a quelques semaines, j'ai tendance à faire des choses un peu inutiles. Je stocke des papiers, j'enlève l'aluminium, des blisters de médicaments, je collectionne. Et puis j'ai demandé, mais Esprit Saint, s'il te plaît, oh Dieu, fais-moi savoir quand je suis dans les actions inutiles, de me faire savoir. Alors, peu après, j'étais en train de faire de nouveau quelque chose, est monté en moi le mot « vanité que vanité ». Et puis j'étais vraiment comme ça.
Surprise.
Ça monte en moi.
Merci pour ce témoignage. C'est vrai que Dieu peut nous parler simplement. Des fois, il nous reprend. C'est pas toujours agréable, mais généralement, c'est avec beaucoup de douceur. Et puis, voilà. Je ne sais pas si une autre personne veut témoigner. Certainement, chacun d'entre vous, vous avez des choses à partager. Vous pouvez le faire peut-être entre vous à la fin du culte. Puis moi, c'est vrai, je me suis dit, tiens, en pensant à votre église, l'église de village, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que toi, t'aimerais dire à cette église ? Puis j'avais l'impression que Dieu me disait, mais justement, encourage-les à être à l'écoute de l'Esprit. J'ai l'impression que vraiment Dieu vous dit, mais prenez le temps et demandez à Dieu, Seigneur, parle-moi, montre-moi, qu'est-ce que tu as, peut-être déjà individuellement, quelles sont les choses que tu veux me dire, les choix, peut-être dans mes relations, peut-être pour différents aspects de la vie, qu'est-ce que tu veux me dire? Et puis je me suis dit, ça peut être aussi, je crois, au niveau de la communauté, Seigneur, se mettre à l'écoute de l'Esprit pour l'Église aussi. Qu'est-ce que tu veux dire à cette Église? Alors je vous invite vraiment ces prochains jours aujourd'hui à prendre un moment puis à vous dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu as à cœur pour cette Église? Puis en continuant à prier pour vous, je me suis dit, tiens, j'avais ce texte qui me revenait, mais qui disait justement dans Acte 1, « Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Puis c'est comme si Dieu me disait, mais j'ai l'impression que cette Église, Dieu vous encourage à déjà être témoin autour de vous. Vos voisins. Alors peut-être pas les voisins qui sont assis à côté de vous, pas vos voisins forcément chez vous, mais peut-être. Mais aussi, je me suis dit, les voisins de la rue. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a à peu près plus de 100 personnes, j'ai regardé hier, qui habitent dans cette rue des chemins des Fleurettes. Il y a pas mal de monde. Puis peut-être, ça peut être une idée, après à vous de voir si ça vous parle, si Saint-Esprit vous conduit, à prier déjà pour tous ces gens qui habitent dans cette rue. Peut-être vous allez être étonnés. J'imagine, j'ai découvert que Marie Asper, justement, après, elle m'a invitée ce matin, mais je ne savais pas qu'elle habitait tout au début de la rue. Donc j'imagine que c'est la personne qui connaît le mieux, peut-être quelques voisins. Et puis peut-être que si on met un peu au goût du jour cette parole, parce que le verset juste d'avant c'est « Mais vous recevrez une puissance », c'est Jésus qui parle, « quand l'Esprit Saint viendra sur vous et vous serez mes témoins à Lausanne, au chemin des Fleurettes. » Ce serait pas mal aussi, hein, adapté aujourd'hui. Puis alors, moi j'ai pris le temps d'aller voir sur Internet. Puis alors, vous avez plusieurs architectes, hein, c'est la rue des architectes, hein, c'est le métier le plus représenté dans la rue, c'est les architectes, il y en a 4 ou 5, un prof d'auto-école, une école d'informatique, un designer, émailleur d'art, une coiffeuse, plusieurs psychothérapeutes, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des familles, des personnes, j'imagine plutôt des femmes d'un certain âge, puisqu'il y avait des jolis prénoms comme Antoinette, Marguerite, Violette, Henriette, Yvette. Donc voilà, il y a pas mal de monde dans cette rue. Et puis je me suis même amusée à vous faire une liste de tous les noms que j'ai trouvés, qui sont dans le bottin, parce qu'évidemment, ils ne sont pas tous dans le bottin, il y a des gens qui ne mettent pas leur nom. Puis c'était un truc bizarre, il y a aussi des numéros qui n'existent pas dans votre rue. Il y a, j'ai pas trouvé le 8, le 27, le 29, le 38, le 40, le 45, donc il y a des numéros comme ça, ils n'existent pas parce qu'il y a des rues qui partent, alors tout d'un coup, ça a sauté des numéros. Enfin, je sais pas, peut-être que vous saviez déjà. Moi, j'avais envie vraiment de vous inviter à vous mettre à l'écoute de l'esprit, puis peut-être de prier pour ces gens, pour ces familles, pour les bénir, pour peut-être les connaître, savoir leurs défis. Et puis, continuez de vous mettre à l'écoute de l'esprit pour vos vies, pour cette communauté, pour votre nouveau pasteur Vincenzo, pour sa famille, pour le conseil, pour tout ce que Dieu il a pour vous pour ces prochains mois. J'aimerais terminer par la prière. Seigneur, merci d'avoir envoyé l'Esprit Saint sur terre. Merci parce que tu nous le donnes à chacun d'entre nous. Et c'est une des plus grandes grâces. C'est tellement un immense cadeau de savoir que par ton Esprit, tu vis en nous, tu nous guides, tu nous inspires, tu nous reprends, tu nous consoles, tu nous fortifies, tu nous parles, tu nous enseignes. Je prie vraiment que pour toute cette communauté, tu parles à chacun, Seigneur. Et tu leur montres, Seigneur, quelle est l'étape d'après, quel est le chemin que tu veux, comment ils peuvent s'ouvrir sur cette rue, sur cette ville, rencontrer des gens, comment tu peux leur mettre à cœur un amour pour des gens autour d'eux, peut-être vraiment leurs voisins, parce que pas tout le monde, évidemment, j'imagine, habite dans cette rue. Eh bien, Seigneur, merci de parler au cœur de chacun. Et je veux vraiment bénir cette communauté, bénir le pasteur, bénir sa famille, bénir le conseil, bénir chacun. Et tu vois tous les défis d'avoir envie d'avoir plus de familles, plus d'enfants, d'autres groupes de louanges, Seigneur. Tu vois tous leurs désirs et leurs souhaits. Seigneur, je veux les remettre entre tes mains et je prie, Seigneur, parce que tu as dit « Demandez, vous recevrez ». Et Seigneur, merci de ce que tu pourvois pour tous les besoins de cette église, pour cette paroisse. Et que ton esprit souffle, Seigneur, et qu'il apporte et continue d'apporter la vie. Et que tu fasses grandir, Seigneur, cette église, ton église, qu'elle puisse te ressembler toujours plus. Merci Jésus. Amen. Soyez bénis.